Chers frères et sœurs, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de plus fragile chez une personne qui a souffert? Eh bien, c'est peut-être le désir. La souffrance est en nous cette force de vouloir quelque chose de mieux, de désirer un avenir meilleur, pour ne pas risquer d'une nouvelle fois d'être trompé. Et soyons clairs, hein, le peuple hébreu, les juifs qui avaient été déportés à Babylone n'étaient pas en très bon état. Le dernier roi avait vu, Sédécias avait vu comme dernier spectacle avant qu'on ne lui crève les yeux, massacrer sous ses propres yeux ses deux fils, puis ce fut une nouvelle déportation, la perte de la terre, la perte du temple, sa destruction, alors que c'était la prunelle de leurs yeux pour ces juifs, et puis le risque de cette perte d'identité. Comment chanterions-nous un cantique sur une terre étrangère? Qu'est-ce qui va donc permettre que ce peuple relève la tête, ne soit pas comme fasciné par son propre malheur, qu'il puisse recommencer à désirer l'avènement du salut? Est-ce que ce sont des bons conseils? Est-ce que ce sont de vifs reproches? Non. Simplement une voix, nous dit Isaïe. Une voix dans le désert, c'est-à-dire une voix venue de nulle part, c'est-à-dire d'ailleurs. La voix du prophète, consolez mon peuple. La voix d'un ambassadeur, parce que c'est cela qu'est un prophète. Il porte avec lui tout un autre monde. Sans cette voix, le peuple reste prisonnier de sa tristesse, de sa culpabilité. C'est cette même voix qui résonne dans l'Évangile, cette voix qui crie, mais qu'est-ce qu'entend aussitôt le peuple? Il entend la parole, il entend le Verbe, il entend Dieu lui-même qui parle et qui rompt le silence et la tristesse de l'homme. Alors cette voix, c'est tout un monde nouveau qui surgit. Et ça attire. Les yeux aussitôt se tournent vers Jean-Baptiste, les oreilles se tendent vers lui, mais ultimement, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, c'est Dieu, c'est le ciel. Et alors on fait la queue pour se faire baptiser. Non pas qu'on veuille s'acheter une conduite, qu'on veuille se purifier de ses vices par une espèce d'hygiène morale, non, mais on sait que le ciel est en train d'advenir sur la terre et on veut s'y préparer. Sinon, la conversion n'a aucun sens. Jean-Baptiste, comme un nouvel Élie, a rouvert le ciel parce qu'il l'a contemplé. Vous vous souvenez? Lorsqu'il voit un homme marcher le long du rivage du lac de Tibériade, que voit-il? Il voit Dieu qui marche sur la terre. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors, quel devient le signe distinctif de Jean-Baptiste? Eh bien, c'est la joie. La joie de celui qui voit au-delà des voiles. La joie de l'ami, de l'époux, qui se tient là, qui écoute et qui est ravi de joie à la voix de l'époux, nous dit l'Évangile. La joie de celui qui vit une intimité profonde avec le Seigneur. Joie étonnante, joie étrange, qui paraît même suspecte aux contemporains de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont dire de Jean? C'est un possédé. Et oui, il est possédé. Oui, il est illuminé. Mais non par le démon, mais bien par Dieu. Alors, frères et sœurs, en cet avant, je me disais, il serait peut-être bon que nous aussi, nous nous interrogions sur notre manière d'être prophètes, puisque nous le sommes par notre baptême. Est-ce que finalement, la véritable prophétie de nos vies, ce ne serait pas notre joie? J'aime cette phrase de Claire de Castelbajac. Je veux être la plus heureuse de ma génération. C'est la phrase la plus prophétique, peut-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on y regarde bien, tous, le monde tout entier, cherche le bonheur. Rien qu'en l'entendant nommer ce bonheur, tous se soulèvent et regardent, pour ainsi dire, nos mains pour voir si on ne serait pas en mesure de leur donner ce que leur cœur attend, dit saint Augustin. Nous voulons tous être heureux et c'est un poids commun à tous, les bons comme les mauvais. Le bon veut être heureux et c'est pour ça qu'il est bon. Le mauvais veut être heureux et c'est pour ça qu'il est mauvais. Celui qui va se pendre veut être heureux et c'est pour ça qu'il se pend, dit Pascal, le philosophe. Quoi donc de plus universel que cette nostalgie du bonheur? Eh bien, c'est ce que nous dit encore une fois l'Évangile. L'heureux message, la bonne nouvelle, c'est le début de la bonne nouvelle chez saint Marc. Et c'est également ce que nous dit Isaïe, « Consolez mon peuple !» Chers frères et sœurs, je crois que cette nostalgie du bonheur, dit le père Cantalamessa, eh bien, elle est un point de contact extraordinaire entre les croyants et les incroyants. C'est finalement pour les incroyants l'unique signe qui pourra les remettre en question. Parce que à une vie heureuse, on n'a rien à opposer. Pas une parole, pas un argument. Une vie qui se dit tout simplement comme un simple témoignage. Alors il faut que nos vies soient à la hauteur de l'attente de notre monde et surtout des jeunes. Vous savez bien, notre joie, notre bonheur, c'est ce témoignage le plus universel, le plus compréhensible, le plus accessible. Alors que cet avant soit un exercice de bonheur et de joie. Deux figures nous sont données pour cela. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il nous enseigne Jean-Baptiste justement ? La rigueur, n'ayons pas peur des mots. La rigueur parce que sans rigueur, pas d'espérance. Sans rigueur, pas de bonheur, parce que notre énergie va se perdre dans les sables. Voyons tout ce qui est petits égoïsmes, petits défauts qu'on s'accorde, nos petites pertes de temps. Tout ça, c'est de l'énergie perdue, c'est de la joie perdue. La petite Thérèse de Lisieux disait justement, quand dans ma journée, je n'avais pas consenti à tous les sacrifices que le Seigneur me demandait, je savais qu'au soir, j'en aurais moins de joie et moins de paix. Jean, au désert, nous enseigne aussi la sobriété dans notre monde repu. La sobriété, c'est la joie. Pardon, je me souviens juste de ces années que j'ai passées en Afrique, de ces villages de brousse où j'allais de temps en temps pour mes vacances. Extraordinaire, ces groupes de jeunes ou de moins jeunes, dans l'obscurité, il n'y avait pas l'électricité, qui parlaient entre eux et qui riaient et dont on sentait qu'il y avait une vraie fraternité qui les unissait. Et ces sourires lumineux, et j'ose le dire, que je n'ai jamais retrouvé de ce côté-ci de la Méditerranée. Voilà pour Jean. Et Marie, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, Marie nous enseigne la patience. En elle a été sémé le germe du royaume. L'enfant Dieu qui est encore une toute petite cellule fécondée, mais qui va grandir. Il faut du temps pour que ce royaume grandisse en elle. Je suis frappé par le témoignage de jeunes qui ont pris leur vie chrétienne au sérieux. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le premier fruit, c'est que la vie commence à prendre un sens. Il n'est pas absurde, il n'est pas vain d'être sur la terre. Deuxième fruit, c'est que vraiment la tristesse se retire. Marie nous enseigne justement à savoir patienter, comme le dit saint Pierre. Dieu prend patience envers vous, il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Il veut que nous parvenions à la conversion. Dieu nous donne du temps pour que tous rentrent dans le royaume, mais il donne du temps aussi à chacun d'entre nous. Pourquoi ? Pour que le royaume atteigne en nous sa plénitude, que nous parvenions à l'état de l'homme parfait, pour que la charité soit parfaite en nous. Il faut viser le ciel directement sans passer par la case purgatoire. À ce moment-là, nous comprenons que Dieu nous donne du temps, qu'il a cette bonté avec chacun d'entre nous. Supplions que nous ayons assez de jours dans notre vie pour aller directement au ciel. Ayons cette audace. Ayons cette audace. Elle est belle. Voilà. Et tout cela, pour que le désir soit vrai, il faut aussi qu'il soit persévérant. Ne soyons pas des hommes, des femmes d'un seul jour, d'une seule seconde, comme cette rosée qui se dissipe au matin, dit l'Écriture. Sachons durer pour que la flamme soit intacte, soit plus vive après des années. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela voudra dire que l'Esprit Saint aura pris le relais de notre propre esprit. Dieu vivra en nous, sa joie sera en nous. Cette joie l'emportera, elle laissera sa discrète lumière dans nos propres cœurs et autour de nous pour que se construise ce royaume.